Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Ukraine. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Xavier Guillou, consultant spécialiste de la prévention des risques et du pilotage des crises. Pascal Gauchon, directeur de la revue Conflit. Et Mathieu Bouleg, associé dans le cabinet de conseil en management des risques à ESMA et chercheur pour le think tank Institut Prospective et Sécurité en Europe. Xavier Guillou, à une semaine du scrutin présidentiel du 25 mai prochain en Ukraine, quelles questions se posent aujourd'hui à Kiev?
Moi, je dirais quelles sont les questions qui sont posées par l'affaire ukrainienne et qui dépassent largement ce qui se passe à Kiev. La première, c'est si jamais on a un développement de séparatisme, se pose la question de l'intangibilité des frontières. Et se pose la question de la gestion de cette boîte de Pandore qui est de plus en plus agitée depuis l'affaire du Kosovo sur la problématique de la révision du tracé des frontières. Et donc la remise en cause non seulement de tout ce qui a été signé depuis le traité de Versailles, mais sanctuarisé par Yalta. Il est vrai que nous sommes entrés depuis 15-20 ans dans une déconstruction de cette sanctuarisation de la sécurité telle qu'elle a été imaginée au XXe siècle par les grandes puissances. Mais si jamais on va sur ce scénario ukrainien, sur un démembrement des frontières, et ce qui est notamment demandé par les dernières élections sur Donetsk et Luhansk, comme l'affaire de Crimée, ça peut aller très loin en termes de conséquences. Demain matin, les Chinois, qui sont très silencieux sur le sujet, regardent ça avec un œil très intéressé, parce que ça leur permet de pouvoir utiliser le droit international demain pour aller revendiquer les Paracels, les Spratleys, comme Taïwan.
Pour la région occidentale de la Chine. Mais Xavier Guillou, parmi les scénarios, vous donnez donc le scénario du séparatisme comme un scénario acquis. Il y a peut-être une mesure intermédiaire avec la fédéralisation de l'Ukraine.
C'est pas ce qu'on a vu dans les Balkans. Hein. Dans les Balkans, on a vu c'est le séparatisme qui l'a emporté. Hein.
Mathieu Boulay,
mais la fédéralisation est déjà une forme de séparatisme. C'est un projet qui est poussé par Moscou depuis à peu près le mois de décembre, où les premiers médias sociaux ont commencé à discuter de cette idée de fédéralisation. L'Ukraine a acté cette idée en parlant de décentralisation du pouvoir avec des régions de plus en plus autonomes. Et Monsieur Guillou a raison, on en vient à cette logique de redécoupage des cartes, des frontières, qui ne sont plus finalement la norme paradigmatique des relations internationales.
Pourquoi la Pologne ne négocierait pas la Galicie? Pourquoi la Hongrie ne renégocierait pas ces territoires au niveau des Carpates, comme la Roumanie, hein? Et pourquoi la Roumanie ne demanderait pas à reconsidérer ce qui a été décidé derrière le traité de Sèvres?
Tout à fait.
Donc derrière se pose la question de la Moldavie avec la Transnistrie. Tout ça peut très bien justifier une demande d'autonomie, voire de ralliement d'Odessa à la Russie. On part dans des scénarios qui sont des scénarios de démembrement de l'Ukraine et derrière qui peuvent poser d'autres questions sur la Biélorussie, sur la relation avec les Pays-Baltes, etc.
Je suis d'accord, mais il ne faut pas être hypocrite quand même.
Alors, Pascal Gauchon?
Oui, il ne faut pas être hypocrite.
C'est-à-dire?
Les frontières ont toujours changé, elles ont... Et depuis le temps qu'on est attaché à ce principe de l'intangibilité des frontières, disons depuis 20-30 ans, on a eu quand même une dizaine d'États qui se sont détachés d'autres États, le Sud-Soudan encore tout récemment. Mais il y a un exemple, on cite toujours le cas du Kosovo, mais il y a un exemple qui est beaucoup plus remarquable, c'est l'ancienne Yougoslavie, et c'est en partie le cas de la Bosnie. Parce qu'en Bosnie, la très forte minorité serbe de Bosnie était d'accord pour un projet de fédéralisation, à condition qu'un lien soit gardé avec la Yougoslavie. Et c'est les Bosniaques et les Croates qui ont organisé, malgré l'opposition donc des Serbes de Bosnie, qui organisait un référendum en 92, qui est un référendum qui a eu à peu près, je crois, un gros tiers d'abstention, c'est-à-dire à peu près la population serbe, et qui a proclamé l'indépendance par rapport à la Yougoslavie, qui s'est faite ensuite. Bon, on est dans un cas qui, en fait, si on regarde bien, est extrêmement proche de ce qui vient de se passer dans la région de Donetsk, avec cette différence non négligeable, bien sûr, que le référendum en Bosnie s'est passé dans des conditions à peu près normales, alors que le référendum, effectivement, à Donetsk et à Lugansk, ce que s'est déroulé dans des conditions un peu étranges, un peu bizarres. Mais en dehors de cet aspect qui n'est pas négligeable, en dehors de ça, on est dans un schéma extrêmement proche. Alors, il faut pas être hypocrite. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'à certains moments, on trouve très bien que un certain nombre de pays prennent leur autonomie. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On a été enchantés en Yougoslavie. Tous les médias occidentaux, tous les leaders occidentaux, toutes les consciences morales ont dit oui, bravo, vive l'indépendance de la Bosnie. Si demain, le Tibet se soulevait à nouveau et réclamait par un moyen ou un autre, un référendum plus ou moins organisé, je suis pas sûr que les Chinois le laisseraient bien se dérouler. Réclamait son indépendance. Combien de voix se lèveraient pour dire oui à l'indépendance du Tibet? Ben alors, ou bien on a une logique pragmatique qui revient à prendre conscience des réalités des rapports de force, et que quand deux peuples ne veulent pas coucher dans le même lit, eh bien, il vaut mieux organiser le divorce. Ou bien, effectivement, on donne le primat au règne de l'ordre et de la force, et on dit très bien à Kiev, écrasez tout ça à coup de tank, on va vous aider. Mais dans ce cas, il fallait effectivement le faire aussi pour Belgrade, à l'égard de la Bosnie, c'est passé, vous me direz. Mais il faudra le faire demain, en direction de Pékin, à l'égard du Tibet. Il faudra aider Pékin à écraser une éventuelle révolte des Tibétains.
Mathieu Bouleg.
Il est clair que l'on intervient sur la scène internationale quand ça nous arrange et pas quand il le faut. La crise ukrainienne nous met profondément face à notre propre hypocrisie du bloc international construit tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, qui effectivement va reconnaître un État plus qu'un autre selon ses intérêts et selon le jeu diplomatique qu'il y a entre les puissances. Je pense qu'on est profondément dans un monde qui se reconfigure, dans une phase de transition des relations internationales, où l'on revient à un monde d'État, alors de manière plus multipolaire que pendant la guerre froide, il est clair, mais avec des États qui se fragmentent de plus en plus, avec des grandes puissances qui ont un droit de regard sur l'intégrité territoriale d'autres États, donc qui finissent par créer des États à souveraineté limitée, tels qu'on avait pendant le Congrès de Vienne, et on revient à une forme de Congrès de Vienne un petit peu 2.0 à l'heure actuelle, où les grandes puissances se partagent le gâteau. On est encore dans cette logique de grand jeu, entre guillemets, jusqu'à voir aujourd'hui une Ukraine dépossédée de sa destinée nationale.
Alors, reconfiguration d'un monde, Xavier Guillot, je me tourne vers vous. La question de l'Ukraine, pour vous, elle a trouvé une voie nouvelle, je veux dire, voilà, une sorte de certitude. Alors, après l'Ukraine, où va-t-on?
Moi, je voudrais ajouter autre chose, parce que je pense qu'il y a un autre élément dimensionnant qu'il faut aborder, qui n'a pas été abordé jusqu'à présent, parce que là on parle beaucoup du côté, si vous voulez, identitaire, territorial, géographique et autres, mais il y a une dimension qui est celle de l'énergie, qui n'est pas neutre dans cette affaire-là. Vous avez quand même toute la sécurité énergétique mondiale qui remonte de la péninsule arabique sur le nœud syriaque, eurasien et de fait caucasien, ukrainien. C'est là où vous avez un nœud extrêmement important. Il ne faut jamais oublier que la Russie est quand même le premier exportateur de gaz au monde, deuxième de pétrole, même si les choses peuvent être révisées avec l'arrivée des États-Unis qui vont devenir premier exportateur du mondial avec les gaz de schiste. Mais nous sommes sur des grands jeux qui sont en train de se reconfigurer en matière énergétique, et avec une Russie qui devient aujourd'hui la gare de triage stratégique, aussi bien pour l'Occident que pour la Chine. 30% des approvisionnements de gaz viennent de Russie, hein, pour l'Europe, et 35% pour la Chine, voire plus. Si vous regardez les derniers contrats qui viennent d'être scellés dans le marbre, il n'y a pas encore longtemps, parce que c'était la semaine dernière, entre les Chinois et les Russes. Donc, ce positionnement nouveau, quand même, dans le management de la sécurité énergétique, qui est fait de 20 ans d'évolution, pas forcément perceptible par tout le monde, mais par les experts et les professionnels, certes, c'est sûr que Vladimir Poutine a une main dans l'ensemble de ce jeu qui n'est pas négligeable. Et quand on parle de l'Ukraine, on parle aussi de la Syrie, on parle aussi de ce qui se passe du côté du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan, de l'Eurasie. Est-ce que aujourd'hui, si vous voulez, ce nouveau positionnement de la Russie ne gêne pas un certain nombre de lobbies qui ont vécu pendant un demi-siècle sur d'autres positionnements? Et quand on voit, par exemple, le niveau d'entrisme d'un McCain ou d'un Dick Cheney, par exemple, sur l'ensemble de cette région de la Méditerranée orientale et de la mer Noire, on peut se poser beaucoup de questions, quoi. Il y a un certain nombre de lobbies qui avaient une main hier, qui ne l'ont plus aujourd'hui, ou qui essayent de revendiquer une part du gâteau, et qui sont plus ou moins malmenés par ces nouveaux repositionnements. Donc il y a plein de questions à se poser sur ce domaine-là. Il est clair que, par exemple, Obama a été pris de court, et a été même contourné sur l'affaire syrienne, comme sur l'affaire ukrainienne. je pèse mes mots en disant ça, puisqu'un certain nombre de lobbies américains qui ont vécu sur le pacte de Kinsey, notamment les accords sécuritaires qui ont été passés avec l'Arabie Saoudite après la Seconde Guerre mondiale, n'ont plus la main aujourd'hui avec le départ des Américains d'Irak, d'Afghanistan et le repositionnement qu'Obama est en train de mettre en place au plan stratégique sur la Chine au niveau du Pacifique Nord, et qu'on retrouve ces lobbies-là aujourd'hui extrêmement actifs sur l'affaire syrienne comme sur l'affaire ukrainienne. Donc, on est sur la déconstruction d'un système, la construction d'un autre processus, et cette phase intermédiaire est extrêmement dangereuse, parce que les intérêts des uns ne convergent pas forcément avec les intérêts des autres, et on peut instrumentaliser des jeux d'acteurs sur le terrain facilement pour essayer de tirer profit de situations ambiguës.
Donc phase extrêmement dangereuse, Xavier Guillou vient de le dire, et face à cela, les États-Unis, l'Europe, Pascal Gauchon, Mathieu Boulegue, qui regardent faire ?
Oui, les États-Unis, on ne peut pas tout à fait dire qu'ils ont regardé faire, puisque quand même, on a bien le sentiment qu'ils ont attisé un peu les choses depuis longtemps. Il y a quand même une stratégie américaine qui a été très clairement exprimée par Brzezinski dans le grand jeu, donc ça fait maintenant 17 ans, qui consiste, et effectivement, comme le disait très justement Xavier Guillot tout à l'heure, consiste à ramener la Russie au rang de puissance régionale. Bizarrement, les Américains continuent encore à craindre la Russie, comme s'il était toujours l'URSS, et avoir en elle un rival potentiel à l'échelle mondiale, ce qui n'est sans doute pas tout à fait le cas, si on exclut une chose, évidemment, qui est l'arme atomique, mais en dehors de cela, on voit mal en quoi la Russie actuelle rivalise avec la puissance américaine. Mais il y a eu cette volonté de rollback, hein. Le rollback que les Américains n'avaient jamais réussi à faire à l'égard de l'URSS, ils l'ont fait à l'égard de la Russie, ils l'ont poussé probablement trop loin, et c'est une partie de l'explication de ce qui se passe en Ukraine. Quant à l'Union Européenne, évidemment, son attitude, on n'est pas obligé d'être employé de Gazprom pour approuver ce qu'a dit Schröder en l'occurrence, à savoir que son attitude qui a consisté à dire aux Ukrainiens, ou bien vous adhérez à l'union douanière, future union asiatique, ou bien vous acceptez l'accord d'association, mais les deux sont impossibles. Et tout ça en ne mettant pas un sou sur la table. Alors que Poutine disait exactement la même chose, lui, de son côté, mais avec la seule différence qu'il mettait 16 milliards de dollars sur la table. Bon, ça indique pourquoi les Ukrainiens ont choisi l'un plutôt que l'autre et ce qui a déclenché la crise. Donc, il y a une part de responsabilité, quand même, de la part des Américains, dans le cadre d'une stratégie très pensée, très calculée, et de la part des Européens, dans le cadre d'une inconscience qui consiste à croire que les gens veulent rallier l'Europe comme ça uniquement parce que l'Europe est belle, parce que ils trouvent que c'est merveilleux. En l'occurrence, c'était une affaire de gros sous.
Mathieu Boulegue.
Je suis d'accord, mais je parlerai pas vraiment de stratégie américaine. J'irai plutôt qu'il y a effectivement cette volonté de faire le pivot asiatique, comme M. Guillou l'a rappelé. Après, je pense qu'ils ont été dépassés un petit peu par les événements en Ukraine. La présence d'un certain nombre d'acteurs politiques comme McCain, effectivement, prouve qu'il y a
républicain un... Républicain américain.
Tout à fait, il y a un réel intérêt pour essayer de créer un effet d'entraînement vers la sortie de crise. Monsieur McCain n'est bien évidemment pas arrivé seul sur le terrain quand il allait apporter de la soupe aux manifestants sur Maïdan. Il y avait un certain nombre de conseillers politiques, de porteurs de valises, de sociétés de sécurité privée qui étaient là pour noyauter un certain nombre de mouvements en Ukraine. La Russie fait contrepoids, effectivement, donc c'est un petit peu un conflit par proxy, par procuration, par substitution territoriale entre le bloc américain, qui préfère aller voir vers ce qui se passe en Asie, vers la Chine, pour faire contrepoids avec la montée chinoise et l'influence dans la région, plutôt que d'avoir à continuer à assumer la destinée de la vieille Europe, entre guillemets. Le retrait en Afghanistan, le repli irakien, on commence à se désintéresser, entre guillemets, des questions européennes pour laisser un bloc complètement fragmenté avec une Union européenne qui n'a pas réellement de poids ou d'influence géopolitique et encore moins de réflexion stratégique, on l'a bien vu. Je pense que la crise ukrainienne est aussi un petit peu symptomatique des échecs de l'Union européenne et de la construction européenne depuis quelques années. Il y a eu un énorme défaut de communication de la part des institutions européennes quant à la destinée de l'Ukraine dans le bloc. Comme il y a également les mêmes problèmes face à la Géorgie, la Moldavie, on tend un petit peu la carotte de l'accord d'association, qu'il soit politique ou économique, sans vraiment que les États sur place aient une réelle compréhension de leur destinée par rapport à l'Union européenne. On leur ferme la porte, mais on leur demande de faire des efforts, c'est-à-dire se sacrifier, entre guillemets, économiquement, changer leurs valeurs pour essayer d'arriver à quelque chose qu'ils n'auront jamais, c'est-à-dire l'intégration au bloc européen. Donc c'est aussi une forme d'hypocrisie et d'échec de notre vision et du manque de projection. Il ne faut pas oublier que le partenariat oriental, qui est la base de ces accords d'association avec les anciens pays du bloc soviétique, ont été poussés par la Suède, la Pologne, un certain nombre de pays qui ont une vision géostratégique profondément anti-russe, pour des raisons historiques et évidentes. Mais il y a aussi un biais méthodologique de ce point de vue-là qui est important de prendre en compte. Et il est vrai que les Polonais sont sur le terrain à l'heure actuelle en Ukraine avec des associations qui payent un certain nombre de mouvements en Ukraine.
Alors quelques mots, oui, Xavier Guillou, peut-être vous voulez réagir et moi j'aimerais qu'on aborde ensuite la question du jeu de Poutine.
Oui, il faut que nous soyons très prudents quand même dans ce qui est en train de se passer parce que Poutine qui avait plutôt tendu la main vers l'Europe, hein, pour essayer de mettre en place une stratégie assez forte vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis même du proche Moyen-Orient, enfin de son étranger proche islamique, hein, est en train de se retrouver en logique de vexation, hein, de nouveau. Hein. On peut avoir, si vous voulez, le réflexe de l'ours qui, de nouveau blessé, nous égratigne d'un coup de patte. La Russie, c'est un immense État qui fait trois fois la taille des États-Unis. Et la préoccupation de Poutine, c'est pas uniquement l'Ukraine. C'est ce qui se passe sur son flanc sud avec le monde de l'islam, hein, et avec des islamistes radicaux qui disent qu'ils vont installer un califat dans certaines zones sensibles de la Russie. Et puis ce qui se passe avec la Chine, avec des millions, des dizaines de millions de Chinois qui passent de l'autre côté du fleuve Amour. Donc Poutine avait essayé de faire passer le message qu'il fallait mettre en place une stratégie eurasienne. Et si jamais on le chatouille de façon non appropriée comme on le fait à l'heure actuelle, il peut très bien nous générer une sorte de guerre civile à l'ex-Yougoslavie qui nous coûtera très très cher. L'affaire de l'Ukraine se situera entre 50 et 70 à 80 milliards de dollars par an. Et lui passera un accord avec les Chinois, un accord stratégique, pour pouvoir arriver à permettre aux deux de tenir les incohérences aussi bien européennes qu'américaines. Hein. Et ça, c'est le risque qui nous pend au nez, là, aujourd'hui.
Oui. Mathieu Boulay.
C'est clair, par effet rebond, il est clair que le monde occidental a, entre guillemets, craché à la figure de la Russie quant à ses intentions de créer une continuité eurasienne dans une logique territoriale. Il est clair qu'une alliance d'État à État entre la Russie et la Chine pourrait très bien renverser un petit peu les cartes du monde. Et c'est en partie la stratégie américaine d'essayer de faire contrepoids au niveau du pivot asiatique. On est dans une phase de rebattage total des cartes géostratégiques qui risque d'amener à un monde avec une conflictualité accrue et des blocs en recomposition qui risquent de mettre à mal le système tel qu'on le conçoit aujourd'hui.
Donc crise en Ukraine, pour résumer cette émission, répercussions sur le fonctionnement du système international, c'est ce que j'entends. Pascal Gauchon ?
Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier que la Russie a l'avantage d'être au centre entre l'Europe et l'Asie, entre l'ancien monde et le nouveau monde du Pacifique qui est en train d'émerger. Et l'Union Eurasienne qu'avait conçue Poutine, c'est un moyen de peser plus. Et il sent bien l'idée de développer les liens. Et en même temps, il s'inquiète un peu de cette puissance émergente asiatique. Donc regrouper les pays eurasiatiques et peut-être aussi trouver un accord avec l'Europe. C'était évidemment ce qu'il pensait. De ce point de vue-là, je suis absolument d'accord avec les propos d'un Jacques Attali, par exemple, qui rappelle tout simplement que la Russie est en Europe, qu'on le veuille ou non, et que nous avons tout intérêt, au nom de la continuité géographique, effectivement, à entretenir de bonnes relations avec elle.
Le problème, c'est que la Russie...
Monsieur Boulay, très rapidement.
La Russie peut se permettre de faire le choix entre l'Europe et l'Asie, or l'Europe ne peut pas se permettre
ne peut pas faire le choix. C'est la géographie.
Exactement.
Xavier Guillou, très rapidement.
Suggérez à vos auditeurs de regarder les cartes des tracés des gazoducs, des oléoducs, et puis aussi des trains à très grande vitesse. Oui. Qui vont être mis en place entre la Chine, la Russie et l'Europe.
Alors
la nouvelle route de la soie.
Les gazoducs et les oléoducs, on a eu l'occasion effectivement de nous pencher dessus. En revanche, la question des trains, pas encore. C'est une
bonne suggestion. Je me permettrai de dire, dans la revue Conflit, il y a un article de deux pages sur les corridors eurasiatiques, permettez-moi cette publicité, qui justement évoque ces futurs trains à grande vitesse, ces liaisons renforcées entre l'Europe et l'Asie, mais en passant par la Russie, qui est effectivement, est entre les deux.
Je conseille de lire la revue Conflit.
Merci à tous les trois. C'est la fin de Géopolitique consacrée donc à l'Ukraine. Merci à Xavier Guillou, consultant spécialiste de la prévention des risques et du pilotage des crises et auteur donc de plusieurs articles sur la crise ukrainienne publiés sur le site diploweb.com. Pascal Gauchon, directeur de la revue Conflit. Et Mathieu Bouleg, associé dans le cabinet de conseil en management des risques à ESMA et chercheur pour le think tank Institut Prospective et Sécurité en Europe. Je signale deux ouvrages images liées à l'Ukraine, le combat des frères Klitschko, dont l'un est candidat à l'élection présidentielle du 25 mai, de Léo Linder, et la princesse du gaz, espion, amour et corruption, enquête sur Yulia Tymoshenko, ex-premier ministre d'Ukraine, de Frank Schumann, aux éditions du moment. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin et Nathalie Laporte, avec la contribution de la documentation.